Elliott est devenu champion du monde de son monde lors du dernier marathon de Paris, en finissant son premier marathon. Un challenge inimaginable pour lui il y a quelques années, car il est atteint de mucoviscidose et avait une capacité respiratoire de seulement 30%. C'est une maladie qui a failli l'emporter, et aujourd'hui je propose de découvrir son parcours. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de sport, surtout de mouvement, et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien vieillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos, je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde, et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertrandsoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. J'ai croisé Elliott à quelques heures du marathon de Paris lors du salon du running. Il venait de chercher son dossard. En le voyant, rien ne laisse deviner son histoire et son parcours. Elliott est un jeune homme souriant, grand, mince, l'allure d'un sportif classique. À côté de lui, sa maman a dit, émue, il revient de tellement loin. Mais c'est quoi le loin? Le loin, c'est la photo qu'il a publiée sur son compte Instagram de lui dans un hôpital, très amaigri, son pronostic vital engagé. Le loin, c'est une capacité respiratoire faible, 30%, à cause de la maladie. Elliott a la mucoviscidose et courir un marathon était juste impensable pour lui. Courir même, tout simplement, était impensable. Elliott bénéficie d'un nouveau médicament révolutionnaire. Ce médicament ne le guérira pas, mais a stabilisé la maladie. Ce médicament ne lui redonnera pas toutes ses capacités respiratoires, mais lui permet de vivre normalement, et donc de courir, relever des défis, et croire en l'impossible. Et pour lui, courir un marathon était symbolique, car c'est une épreuve de persévérance, de souffle et de résilience. Elliott, dans cet épisode, nous raconte son parcours. Pourquoi il s'est mis à la course à pied? Comment et pourquoi il s'est lancé dans cette aventure du marathon? Quelle fut l'étincelle pour lui? Et est-ce qu'il a retrouvé lors de la course ce qui avait fait que l'étincelle s'était allumée au fond de son cœur? Il nous parle de ses entraînements, comment il s'est entouré aussi pour réussir les tests physiques qu'il a fait. Il nous parle aussi du regard de ses proches et notamment de sa maman, des moments difficiles qu'il a traversés et les moments où il a pensé ne pas y arriver, des difficultés particulières qu'il a lui au niveau de sa santé, parce que la mucoviscidose a plusieurs formes et vous allez voir quelle forme elle prend chez lui. Et puis il nous parle aussi des gens qu'il a rencontrés, comme ce groupe de coureurs, courir à plusieurs, qu'il va rejoindre toutes les semaines tels de nouveaux amis rencontrés grâce à la course à pied. Sur la ligne de départ du marathon de Paris, ceux qui étaient à côté d'Elliott ne pouvaient pas deviner sa maladie et son parcours. Et aujourd'hui, vous allez le découvrir, comment s'est passée sa course, à quoi il a pensé et ce qu'il envisage désormais de faire. Et avant de vous laisser écouter Elliott, je voudrais vous dire un dernier mot. Je diffuse cet épisode le 1er mai et le 3 mai débute le challenge sportif et connecté Move for Muco. L'objectif est de parcourir 42 km en 3 semaines du 3 au 26 mai pour soutenir la lutte contre la mucoviscidose. Si parfois vous vous demandez si ça vaut le coup de participer, à quoi sert l'argent collecté dans ces mobilisations, pensez à Elliott et son histoire et à tous les parents et enfants qui ont de l'espoir grâce à la recherche et au traitement. Et un espoir aussi quand ils voient des personnes comme Elliott ou Paul Fontaine que j'avais reçu dans des épisodes précédents et qui lui aussi atteint de mucoviscidose réaliser de tels défis sportifs. Je mets bien sûr le lien vers ce challenge dans les notes de l'épisode. Allez, c'est parti.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour Elliott.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu?
Bah écoute, ça va, ça va. J'ai récupéré un petit peu de mon marathon, donc ça commence à aller mieux.
Ouais, tu me disais que tu avais quelques courbatures il n'y a pas si longtemps que ça encore.
Ouais, le marathon, tu vois, c'était le dimanche jusqu'au, on va dire, mercredi, jeudi, à peu près, j'ai eu des courbatures. Et là, ça va mieux.
Ça va mieux. Bon, est-ce que ce marathon s'est bien passé?
Écoute, bof.
Bof?
Bof, ouais. J'étais parti pour faire à peu près aux alentours des 4 heures. C'était pour un premier, je m'étais dit que c'était quand même un temps à peu près correct. En ayant quand même en tête que voilà, sur un marathon, il peut y avoir pas mal d'incertitudes, surtout quand c'est le premier. Et ce qui s'est passé, bah, c'est que jusqu'au 21 premier kilomètre, tout se passe à peu près normalement. Je suis dans mes temps, il y a pas trop de soucis, je suis à peu près en forme. Et on va dire qu'à partir du 25e, 26e, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir une pointe de côté. Donc, sur le coup, je suis pas trop inquiet. Je me dis, bon, ça va peut-être durer quelques kilomètres et passer. Sauf que elle m'empêche quand même un petit peu de respirer à force. Donc, je suis obligé de commencer à ralentir un petit peu le rythme. Jusqu'on va dire 28e, 29e. Et puis, bah, là, on arrive dans la période, un peu du le fameux mur, tant redouté, que j'avais jamais expérimenté puisque j'avais jamais fait cette distance. Et là, bah, douleur musculaire qui commence à arriver, le mal de ventre sûrement dû à peut-être une mauvaise gestion des gels. Donc voilà, les trois facteurs-là combinés font que j'ai malheureusement dû ralentir et que les 12 derniers kilomètres du 30e au 42, ça a été très compliqué.
Bon, mais t'es marathonien, t'es champion du monde de ton monde.
Ouais, c'est ça, de mon monde, et c'est ce qui compte. C'est de toute façon, tu vois, je me suis fixé un temps parce que voilà, faut avoir un repère, mais le principal objectif pour moi était avant tout de le terminer et j'en suis très content.
Oui, surtout que je t'ai pas présenté, je t'ai pas demandé de te présenter, mais tu vas te présenter, mais courir pour toi, c'est pas le truc naturel à l'origine.
Non, non, clairement pas.
Alors, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Et bon, on va donner ton compte, tiens, on va donner aussi ton compte Instagram, comme ça les gens pourront voir sur Instagram. Je mets les liens bien
Ok.
sûr en description de l'épisode, parce que tu le dis directement aussi sur ton compte. Et pour
Ouais.
ceux qui voudront voir la préparation, qui voudront voir un petit peu le contexte, un petit peu tout l'ensemble, ils pourront comprendre. Donc je te laisse te présenter.
Alors, je m'appelle Elliot, j'ai 29 ans. J'ai une maladie qui s'appelle la mucoviscidose. Donc, pour ceux qui connaissent pas, ça affecte principalement les voies respiratoires et aussi digestives. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, on va dire jusqu'à 2020-2021, pour moi, c'était très compliqué de courir puisque bah, j'avais pas la capacité respiratoire. J'ai été aux alentours des entre ça fluctuait entre 30 et 50% de capacité respiratoire. Et puis j'étais mince, hein. Je faisais aux alentours des entre pareil 52-55 kilos pour 1m83, donc ce qui était quand même très peu. Et donc voilà, j'ai eu un pneumothorax, etc., etc. Donc pour moi, tout ça, c'était pas possible. Petit, bah, la course, voilà, on est obligé d'en faire à l'école, mais avec ça, j'ai jamais apprécié ça. C'était plus une corvée qu'autre chose, dans le sens où bah, j'avais pas la capacité respiratoire, donc j'étais vite essoufflé, etc. Donc voilà, moi et la course, ça faisait deux. Et le gros déclic, c'est que j'ai eu, à partir de 2020, en pleine période Covid, il y a un traitement qui est arrivé sur le marché qui s'appelle le Kaftrio et qui a tout révolutionné, quoi. C'est-à-dire que le médicament-là compense la maladie, compense le gène défaillant. Donc la maladie est toujours présente, mais une grande partie est compensée, quoi. Ce qui fait que j'ai pu récupérer une capacité respiratoire plus importante. J'ai pu reprendre du poids, j'ai arrêté les médicaments, j'ai arrêté la kiné, j'ai arrêté tous les traitements que j'avais, les antibiotiques à répétition, etc., etc. Donc ça, c'était en ouais, début non, avril 2020 à peu près. Mais bon, du coup, j'ai pas pu refaire de sport tout de suite parce que tu vois, la période Covid, là, quasiment tout 2020, tout 2021, c'était compliqué. Donc voilà, mais ça m'a permis de reprendre du poil de la bête, quoi. J'ai pu reprendre du poids et du souffle. Et donc en 2022, je me suis inscrit en salle de sport pour essayer de refaire de la masse musculaire et un peu de cardio. Mais j'étais plus axé musculation. La course à pied, toujours, tu vois, j'avais toujours ça ancré en tête, que c'était compliqué, que je voulais vraiment pas. Et j'ai eu un déclic en avril 2023. Donc là, il y a un an. Je vois une vidéo d'un youtubeur que je suis, qui a fait le marathon de Paris. Et je le vois arriver à la fin et je me dis, mais il faut que j'essaye, quoi. Je me dis, quand je vois l'état dans lequel il termine, tout ce qu'il décrit, quand je vois l'ambiance, quand je vois les gens, je me dis, mais je suis obligé de le faire. Je sais pas, ça m'a attiré d'un coup, comme ça, tu vois.
Ouais.
Et en même temps, j'avais, à ce moment-là, j'avais depuis quelques mois, je me disais, actuellement, j'ai le retour de la santé. Et j'avais envie de faire une épreuve qui symbolisait ça, tu vois. Et je savais pas, j'avais réfléchi à peut-être aller faire le Mont Blanc, faire des choses comme ça. Et en tout cas, quand j'ai vu le marathon, ça se fait un déclic dans ma tête et je me suis dit, je vais le faire l'année prochaine. Et à la suite de la vidéo, on était à peu près vers, ouais, début avril, j'ai pris mon dossard directement un an à l'avance. Et je me suis dit, bah écoute, là maintenant, t'as plus le choix. Il faut y aller. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, pour moi, cette histoire du marathon.
Et donc, qui se termine, enfin, l'histoire ne se termine pas, mais en tout cas,
Non,
cette
l'histoire, ça ne termine pas.
préparation marathon se
Ouais.
termine donc
C'est ça.
marathon de Paris
Ouais.
2024. Est-ce que l'ambiance, est-ce que les sensations,
Ouais.
tout ce qui avait été décrit dans cette fameuse vidéo qui t'a donné l'étincelle, est-ce que tu l'as
Ouais.
retrouvée?
Ouais. Je l'ai retrouvé. Alors, j'avais jamais été habitué à une ambiance comme ça, hein, mais j'avais fait déjà un 10 km là où j'habite à Rennes. Et j'avais fait un semi aussi qui faisait partie de ma préparation, quoi. Donc j'avais déjà vu un peu l'ambiance du sas, l'ambiance d'une course, mais ça n'avait forcément rien à voir avec Paris. Et j'ai été vraiment, enfin, impressionné par l'ambiance. Et que ce soit les gens qui te poussent sur le côté, les gens qui crient ton nom en voyant ton nom sur le dossard, comme ça j'entendais des Elliot, et je savais pas, au début je pensais que c'était des gens que je connaissais, mais en fait je me suis rendu compte à force que non, non, les gens t'encouragent. Les coureurs sont, c'est pareil, sont super sympas, les bénévoles super sympas, enfin non, non, il y a vraiment une ambiance que j'avais jamais connue. Et pour en avoir parlé avec des gens qui eux-mêmes ont l'habitude de faire d'autres marathons, que ce soit à l'étranger ou en France, ils m'ont tous dit que l'ambiance à Paris était incroyable, vraiment.
Bah, c'est
Plus
sûr
le
que.
salon, j'ai pas parlé du salon, mais le
Ah
salon, c'est pareil, 2 jours avant, incroyable.
bah oui, d'ailleurs, où on s'est croisés.
Ouais.
Et donc, le salon, ça va, t'as pas perdu trop d'énergie? Parce que c'est épuisant quand même, le salon. Il y a beaucoup de stands, il y a beaucoup de monde, il y a du bruit. Alors, je sais pas combien de temps t'y as passé. Moi, je sais qu'avant mon marathon, j'y ai passé beaucoup trop de temps. Je m'étais fatigué les jambes pour pas grand-chose. Mis à part acheter des paires de chaussettes. Ce que je fais. J'ai encore et je suis revenu avec des paires de chaussettes. Tu vois, à chaque fois que je vais dans ce salon, je reviens avec des paires de chaussettes. Mais t'as pas perdu trop d'énergie, toi, dans le avant, dans les préparatifs et tout ça. T'as réussi à garder ton énergie pour le jour de la course?
Oui, alors tout simplement parce que j'ai écouté des podcasts et vidéos qui recommandaient justement de pas trop se laisser avoir par le salon, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de stands que tu as envie de tout acheter, tu as envie d'acheter tous les gels, les paires de chaussures, les paires de chaussettes, mais je me suis pas fait avoir. Et non, non, bah tu vois, j'y suis allé pour récupérer mon dossard. J'ai évidemment fait un tour, mais je me suis pas attardé, quoi. J'ai dû rester 1 heure grand max pour pas trop me fatiguer,
Wow, dis donc, bel exploit quand même, parce que traverser le salon déjà, rien que
quoi.
traverser le salon du fabricant de chaussures
Oui.
principal déjà, il faut
Oui, c'est
déjà un
vrai.
sacré temps pour y arriver. Après, t'arrives à te faufiler dans les allées, etc. et tout, bon truc. Et puis je sais pas si tu t'es attardé à la fin là où il y a tous les autres courses qui essayaient de t'attraper pour essayer de t'offrir des dossards,
Oui,
pour te dire participer,
exact.
etc. Si
Oui.
t'avais vu des trucs qui te disaient, ils te préparent déjà pour l'après. Je sais pas si t'as vu des
C'est
trucs qui
ça.
t'intéressaient pour le ensuite.
Bah, j'avais vu le marathon, j'ai vu des courses, il y avait le marathon vert de Rennes. Donc, qui est en fin octobre, là, à côté de là où je suis. Il y avait le marathon de Nantes aussi, qui me disait bien. Mais bon, la plupart des courses, elles étaient pour l'année prochaine. Donc, tu vois, c'était entre 6 mois et 1 an. Donc, il y a des choses qui m'ont donné envie, mais voilà, moi, j'étais vraiment focus sur Paris. Puisqu'à ce moment-là, je ne savais même pas si j'avais, tu vois, est-ce que ça allait être le seul, est-ce que je vais vouloir en faire un autre. À ce moment-là, je n'ai pas trop d'idées, tu vois. Je suis vraiment sur Paris. Donc voilà, je prends quelques flyers, mais sans grande conviction à ce moment-là.
Et maintenant, tu sais.
Bah écoute, je t'avouerai que quand je me suis pris le mur, je me suis dit, mais Déjà, qu'est-ce que je fais là? Ensuite, je me suis dit plus jamais. Et 2 jours après, quand j'étais dans mon lit, à regarder le plafond avec mes courbatures, étonnamment, je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie de recommencer, tu vois. Donc, probablement, oui. Je sais pas quand, mais en tout cas, j'ai vraiment envie de refaire l'expérience. Clairement, parce que j'ai envie de. Ce qui s'est pas bien passé sur le premier marathon, j'ai envie de me dire, si je fais les choses mieux, de quoi je suis capable, tu vois. Je pense que je peux gagner du temps, je pense que je peux avoir de meilleures sensations. Et voilà, j'ai envie de. Et puis même pour l'ambiance, pour le dépassement de soi, ça reste quand même une épreuve sympa, je trouve.
Oui, puis comme tu disais, c'est vrai qu'il y a une ambiance, vous savez combien, 52 000 au départ peut-être?
54 000, je crois, à Paris.
54 000. Donc tu as senti cette masse là qui... T'étais dans le sas 3h45, donc en plus, il y a quoi?
Ouais.
Alors peut-être 10 000 personnes dans ce sas là qui partent, qui s'élancent là. C'est
Oui, je pense
un...
que 3h45, 4h, ça doit être la majorité à peu près des gens, ouais, j'imagine.
Tu sens la masse là, cette espèce de déplacement et tout. D'ailleurs, enfin, tu peux être pris par l'allure. Je sais pas comment t'as vécu le départ. Si l'allure c'est parti vite, plus vite que ce que tu pensais, ou à peu près comme tu pensais. Enfin, t'as été surpris par le déroulé en fait de la course un peu ou pas?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand je suis arrivé vendredi à Paris, donc je suis allé récupérer mon dossard et je me suis dit, il faut que j'aille repérer, si tu veux, déjà les lieux, parce
Ouais.
que pour pas être trop perdu le jour J, parce que je me suis dit, avec le monde qu'il y a, moi, je connais pas très bien Paris en plus. Bon, les Champs-Élysées, c'est pas très dur à trouver, mais j'avais besoin de voir, tu vois, l'organisation, dans quel sens on partait, etc., etc., quelle bouche de métro fallait prendre. Donc tout ça j'ai fait le vendredi. Mais bon, quand tu vois les champs vides et quand tu les vois remplis de 50 000 personnes, effectivement c'est impressionnant. Et quand je suis rentré dans mon sas peut-être 1 heure avant, oui, peut-être pas 1 heure, mais 45 minutes, 1 heure avant, et ça s'est rempli progressivement. Et quand tu vois tout le monde arriver, en fait tu t'es poussé naturellement vers la ligne de départ. Et bon, j'ai discuté avec quelques personnes, etc. Mais ouais, c'est assez impressionnant de voir tous ces gens arriver. Et tu te dis, bah, j'y suis, quoi. Là, ça y est, c'est du concret, on va dire. Et est-ce que je me suis laissé aspirer au début? Non. J'ai vraiment essayé de respecter mon allure. J'étais parti sur 5:30. Et j'ai essayé vraiment au maximum de respecter l'allure. Et c'est très difficile parce que tu es poussé. Il y a de l'engouement, t'es les gens qui crient, t'as vraiment envie d'accélérer, puis c'est le début, donc tu te sens vraiment bien. Mais bon, on m'avait dit qu'il fallait vraiment, au moins jusqu'à la Concorde, là, les 2 premiers kilomètres, fallait y aller tranquillement, parce que sinon, tu peux payer après, sur ta course. Bon, tu vois, je l'ai payé, malgré ça, j'ai quand même payé, au 30e.
Est-ce que à ce moment du départ, tu as pensé à ton parcours, à ce que tu avais vécu et à ces périodes où tu disais 30% de capacité respiratoire, un poids, ben, je sais pas que dire, on peut dire très léger, mais je ne sais même pas comment le qualifier parce que moi j'ai regardé ton réel où on voit des photos de toi pour ceux qui
Ouais.
voudraient le voir, c'est impressionnant. Enfin, tu dis 54 kilos pour 1m80 à peu près, c'est ça,
83, ouais, même
hein?
je suis descendu même un peu plus bas, des fois aux alentours des 50, ouais. Donc c'est
Ouais.
vraiment très maigre, ouais. Bah, tu peux dire maigre, en vrai, c'est le mot, hein.
Ouais. T'y repensais à ça à ce moment-là ou pas? Parce que moi, je me rappelle que j'y ai pensé à ces pensées-là. Puis tu sais, je dis toujours, sur la ligne de départ, j'ai un gars à côté de moi qui se met à pleurer. Je me dis, mais à quoi il pense dans sa tête? Il pleure au départ, alors que d'habitude, tu pleures à l'arrivée. Ça t'est revenu tout ça ou pas?
Ouais. Alors, on va dire que, ben, en fait, déjà sur les réseaux, c'est-à-dire que entre vendredi et samedi, j'ai été beaucoup poussé sur les réseaux. Il y avait Vaincre la Muco, Vicidos qui avait fait un post. J'avais aussi dans d'autres groupes des gens qui me taguaient un petit peu partout, qui m'encourageaient. J'avais des mamans, tu vois, qui m'envoyaient des messages en me disant bravo pour ce que tu fais, ça me donne de l'espoir pour mon enfant.
Ouais.
Donc j'étais un petit peu porté avec et en même temps il y avait de l'émotion pour moi et en même temps tout ça me portait. Mais au moment du départ, je pense pas à ça parce que je suis vraiment concentré sur ma course avec l'objectif de le finir. Par contre, oui, à partir du moment où ça a commencé à être difficile, 28e, 30e, évidemment, j'ai repensé À moi, évidemment, quand j'étais pas très bien, à tous ces gens qui m'encouragent. Et comme je le dis, ce marathon, je l'ai fait pour moi, mais je le faisais aussi pour les autres. Je le faisais pour tous les enfants qui sont malades et qui se disent, bah, il n'y a pas d'issue. C'est ce qui est pas vrai. Enfin, en tout cas, moi, j'avais envie de leur dire que croyez en vos rêves et soyez le champion de votre monde, comme tu dis. Et voilà, donc forcément que ça m'a aidé dans les moments difficiles. Et ça m'a même, à un moment, j'ai même pleuré parce que quand je suis arrivé dans les moments difficiles et que je voyais que déjà, j'allais pas réussir mon temps, que je savais même pas si j'allais terminer le marathon parce que c'était vraiment très difficile, j'ai eu les larmes aux yeux parce que je repensais à tous ces gens, je repensais à mon parcours, voilà, et j'étais pris d'émotion, franchement. Il y a un moment là, vers le ouais, entre 35e et 36e, c'était compliqué pour moi, émotionnellement en tout cas.
Ouais, et je veux bien le croire. Et tu sais, quand je t'ai croisé, c'était avec ta maman que t'étais.
Ouais, ma maman,
Et on voyait l'émotion qu'elle avait, elle, par contre. J'imagine après de te voir faire ça. Mais quand elle en parlait, quand elle parlait, elle a dit quelques mots sur le fait quand t'étais bah, maigre, etc., que t'avais plus de souffle et tout,
ouais.
par où t'étais passé, on sentait qu'elle était aussi très émue de voir de te voir là, quoi.
Bah, totalement, tu sais, ma mère, en plus, j'ai grandi qu'avec ma mère, quasiment. Et pour elle, c'est vraiment un truc de fou. C'est-à-dire que quand je lui dis je me suis inscrit au marathon, elle n'en revenait pas parce que tu vois, elle court pas autant que moi, elle n'est pas dans le domaine de la course. Donc un marathon, ça paraît une distance folle. Et du coup, elle a toujours voulu me protéger et ça lui faisait un petit peu peur aussi. Elle s'est dit, mais dans quel état il va finir? Il a la chance d'aller mieux, mais bon, est-ce que ça va pas, est-ce qu'il va pas trop se fatiguer? Est-ce que ça va pas lui faire du mal? Donc voilà, il y avait plein de choses qui se mélangeaient dans sa tête. Mais bon, comme elle m'a toujours soutenu, évidemment, elle est venue avec moi. Et je sais qu'elle était énormément stressée. Elle me suivait sur l'application où on voit avec les dossards là, qui avancent, etc. Et je sais que c'était pendant 4 heures, ça a été 4 heures et demie, ça a été un supplice pour elle.
Ouais. J'imagine. Parce que c'est vrai que déjà pour des personnes, on va dire pour tout le monde déjà le marathon, tu vois, on en parlait ce matin avec ma femme, elle disait, moi à courir un marathon, si c'est beaucoup trop
Ouais.
long, j'y arriverai pas, etc. Et l'autre jour je disais, il faudrait pas banaliser, parce qu'il y a des gens qui banalisent un petit peu le marathon, puis il y a des gens qui disent oui, ceux qui le font lentement, c'est pas un marathon, enfin. Il y a tout un tas de trucs. Et on se rend pas compte, en fait, que j'avais beaucoup aimé, tu sais, la BD, je sais pas si t'as lu la BD d'Églantine, que j'avais reçue il y a peut-être 2 ans dans le podcast, Églantine Chesnaud, qui racontait les petites histoires que t'as à l'intérieur, tu sais, du marathon. Et en
Ouais.
fait, les 54 000 coureurs, vous avez tous des histoires, c'est-à-dire sur ce départ. C'est-à-dire que toi, on le voit pas comme ça. A priori, quand on voit la photo, si on connaît pas ton histoire, on sait pas par quoi t'es passé. Mais ils avaient toutes ces petites histoires, etc. Et pour ce qu'on ne se rend pas compte, en fait, c'est que c'est un effort qu'il y a très peu de gens qui font. C'est-à-dire que le pourcentage de marathoniens, il est finalement faible, alors qu'on a l'impression que tout le monde, sur Instagram, tu as l'impression que tout le monde a fait un marathon. Alors qu'en fait, c'est très faible. Et j'ai même vu une stat l'autre jour qui montrait que aux États-Unis, tu sais, ils ont fait les stats des Apple Watch. Il y a des gens qui courent même pas 42 km dans l'année. Ils mettent 312 jours pour le faire, tu vois, 42 km. Donc c'est un truc quand même qui est physiquement déjà pour beaucoup, pour tout le monde, c'est pas un effort anodin.
Oui.
Donc et de l'extérieur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, mais est-ce que tu vas t'en sortir? Comment tu vas faire? Comment ça va se passer? Même moi, le jour de la course, ma femme, elle s'inquiétait parce qu'elle ne me voyait pas avancer aussi vite qu'avant sur le bois de Boulogne, tu
Oui,
vois.
c'est ça. Oui. Bah, il y a des moments où tu es en difficulté, donc c'est sûr que tu ralentis. C'est ce qui s'est passé pour ma mère aussi. À un moment, elle voyait que voilà, les 21 premiers kilomètres, j'avance bien. À partir du 30e, je ralentis vraiment beaucoup et le point, il avançait très doucement. Donc, elle s'est dit, mince, il y a quelque chose. Et forcément, ça accentue le stress.
Elle t'a demandé de la prévenir ou de lui dire tout va bien ou des choses comme ça?
Elle m'a dit, tu peux m'appeler. Tu n'auras pas besoin si tu es essoufflé, tu n'as pas besoin de me dire quoi que ce soit. Mais juste si tu m'appelles et je te remonterai le moral. Je ne l'ai pas fait, mais elle m'a quand même. C'est elle qui m'a appelé, mais je lui ai dit, bah, là, je t'avoue, je suis un peu dans le dur. Mais c'est tout. Non, elle a essayé de me faire confiance et voilà, elle n'a pas voulu non plus trop m'embêter. malgré son stress.
C'est un message, je comprends, tu vois, les parents qui ont des enfants malades, etc.
Ouais.
Et on avait parlé avec un autre invité aussi. On se rend pas compte de l'extérieur. C'est une maladie qui, tu vois, moi je disais, je faisais la virée de l'espoir avec mes parents, on allait
Ouais.
participer, collecter de l'argent et tout. Et on se rend pas compte, enfin, je sais pas depuis combien de temps il existe les virées de l'espoir, parce que en plus, c'est loin, loin, lointain, lointain, mais que bah, finalement, c'est aussi un. Pour les parents, quand ils voient faire ça, quand des enfants malades et tout, se dire, bah, il y a des solutions, des médicaments, des solutions qui arrivent et que c'est ça. Enfin, je ne sais pas à quel point tu considères que t'as, en capacité respiratoire, combien tu as récupéré, à combien tu es, etc. Mais c'est super encourageant. C'est un incroyable message pour les parents qui ont des enfants, qui, quand ils se disent, bah tiens, ils pourront faire aussi ces efforts-là s'ils le veulent. Peut-être, probablement. En tout cas, il faut l'espérer.
Exactement. Il y a un message là que j'ai encore en tête d'une maman qui me dit qu'actuellement elle a des difficultés avec son enfant par rapport à sa santé, mais que ça lui donne de l'espoir pour la suite, en fait, quand elle me voit. Et bah, tu vois, moi, ça me touche directement quand je reçois des messages comme ça. Et j'ai envie de dire, bah oui, c'est pour ça qu'il faut capitaliser le plus possible, même quand depuis petit, quoi, parce que bah, tu sais pas de quoi elle fait demain. Ce traitement-là, il est arrivé un petit peu du jour au lendemain comme ça. Donc, malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas pu en bénéficier. Il y a encore des gens qui ne peuvent pas en bénéficier, puisque c'est en fonction de. Chaque gène est un petit peu différent. Tu vois, on a la même maladie, mais chaque gène, il y a des nuances dans les gènes. Donc, il y en a malheureusement qui ne peuvent pas l'avoir. Et justement, pour ces gens-là, il faut encore plus se battre et se dire, bah, probablement, votre tour arrivera un jour et on va tout faire pour. Et c'est comment dire, c'est pour ça que moi je voulais, c'est pour ça que je voulais montrer ça, quoi. Je voulais dire, bah attendez, là il faut y aller, il faut se battre, même si vous avez des rêves, faut y croire, faut y aller. Et c'était ça mon objectif. Et c'est pour ça que j'ai été relayé par la MUCO. C'est pour ça que quand j'en ai parlé, même à la base, à la base, tu sais, j'avais pas prévu de faire un compte Instagram. Hein. C'était ce compte Instagram, il est arrivé pour ça justement. Parce que, au début, je me suis dit, je vais faire ça dans mon coin. Je suis pas trop à l'aise sur les réseaux. Je suis un peu timide, etc. Donc, je me voyais pas de base faire un compte comme ça. J'en ai parlé à l'hôpital, j'en ai parlé à mes proches et ils m'ont dit, mais c'est pas fréquent que quelqu'un qui a la muco fasse un marathon. Donc, justement, il faut en parler, il faut que tu te montres, il faut que ça donne envie aux autres, et c'est pour ça que je l'ai fait. C'est uniquement pour ça.
Et c'est vrai que parce que ton compte, tu le commences en septembre 2023, hein, c'est-à-dire il y a, ouais, au début de ta prépa, en fait. C'est-à-dire qu'à ce
Ouais,
moment-là,
c'est
tu
ça.
dis,
Ouais.
je vais raconter ma prépa et comment j'arrive petit à petit à cette étape, à
C'est
cette
ça.
échéance-là,
Ouais.
quoi.
Ouais. Bah, le but, c'était de partir de quelqu'un qui n'a jamais trop couru, qui connaît pas grand-chose en course à pied. Et puis qu'on s'accompagne ensemble, quoi. Tu vois, et tout de suite, bon, j'ai pas énormément d'abonnés, mais c'est les plus fidèles qui sont là et m'ont toujours poussé. Et je les remercie parce que il y a des moments où ça a été compliqué et ils ont toujours été là pour moi, que ce soit des messages de soutien sur mes publications ou en privé. Et ça motive et ça m'a aidé.
Quand tu commences là en septembre sur la première
Ouais.
photo, t'es capable de courir combien en fait à ce moment-là?
Combien je suis capable de courir, on va dire, allez, entre 5 et 10, à peu près. À peu près 5 à 10 km et 10 km max et pas à l'allure actuelle. C'est-à-dire que je devais les courir aux alentours des 6:30, peut-être, à peu près, quelque chose comme ça.
Et donc, c'est aussi un message pour ceux qui se disent est-ce que c'est préparable, etc. Parce que finalement, le temps est court
Ouais.
pour préparer. Alors, tu as une préparation 24 semaines, hein, je crois, parce que
Oui,
c'est
c'est
une
ça.
préparation campus.
Ouais.
Donc, c'est de la préparation longue qui fait partie de leur philosophie aussi, mais qui montre que tu pars d'un niveau, tu fais 5-10 km maximum. Et tu arrives
Ouais.
à. Alors attends, j'entends de calculer, mais je ne suis pas très bon en calcul, mais on va dire en 7 mois, quoi, à peu près,
Ouais, à peu près.
à courir un marathon, à le finir,
Ouais.
et à le finir, et tu as pris le mur, mais tu as un sourire à la fin. Je veux dire, c'est pourtant, tu vois, c'est aussi pour des gens te dire, bah tiens, c'est faisable, on peut le faire. Bon, j'imagine que tu étais aussi très sérieux sur ta préparation, parce que tu avais combien de
Oui.
séances par semaine à peu près?
4 à peu près.
4 par semaine.
Ouais.
Tu as été suivi médicalement, parce que je vois des images là où tu as des. Donc
Oui,
je.
j'ai été suivi, j'ai fait le test d'effort, j'ai été accompagné par un médecin pour voir au niveau du cœur, au niveau du souffle. Bah, j'ai fait en fait le même test que les sportifs de haut niveau, là, quand
Ouais.
on leur met des électrodes un petit peu partout sur un tapis. C'est ce que j'ai eu pour voir si mon cœur était capable de supporter l'effort. Est-ce qu'au niveau du souffle aussi, ça allait le faire? Et quand j'ai eu le feu vert, après, bah, il n'y avait plus qu'à s'entraîner. Donc, ce qui est la partie la plus dure. Hein. Parce que le marathon, c'est une chose de le faire, mais finalement, c'est quasiment la préparation qui est longue et qui est le plus douloureux. Hein. 4 fois par semaine, quand il pleut, quand il fait pas beau, quand il fait froid, qu'on est fatigué, pour moi, c'est le plus difficile, en tout cas, la préparation, de loin même.
Bah, je crois que de toute façon, tu sais, c'est moi je me suis blessé sur la prépa, première prépa. Il y a énormément de gens qui n'arrivent pas au bout de la prépa, en fait. La première victoire, enfin, c'est déjà d'être sur la ligne de départ. C'est déjà une très grosse victoire, bien sûr, d'être sur la ligne d'arrivée, mais je pense que on n'imagine pas le nombre de personnes, parce qu'on ne le voit pas en fait. Le nombre de personnes qui n'arrivent pas jusqu'à la ligne de départ, parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils ont abandonné, parce qu'ils n'y ont pas cru, ou. Tu sais, c'est aussi le dicton de Walt Disney, entre ceux qui ont le rêve et ceux qui s'inscrivent avec une date de dossard pour que le projet se réalise, il y en a un bon paquet, hein, un écart. Et je pense qu'en plus, quand tu dis je vais courir un marathon, bon, t'en as parlé avec ta maman, tu disais avec ta maman un
Ouais.
peu la réaction et tout. Quand tu dis ça autour de toi, on dit quoi? On dit t'es fou? Enfin, ça paraît peut-être insensé, non, au départ?
Alors, j'ai eu la chance, c'est que ma copine et ma mère m'ont tout de suite encouragé en me disant que j'allais pouvoir le faire. Mais c'est vrai que ce soit mes amis ou même des gens de l'extérieur, c'est les gens qui courent. Alors, en fait, tu as deux types de personnes. Tu as les gens qui courent pas et donc pour qui le marathon, c'est vraiment l'épreuve ultime, le mythe un petit peu. Donc pour eux, ils se disent, oh là là, ça va être vraiment compliqué. Et tu as les gens qui courent, qui me disent, bah effectivement, c'est pas facile, tu as peut-être pas assez de préparation. La plupart des gens m'ont quand même recommandé de faire un marathon entre 1 an et 2 ans de course à pied avant. Donc c'est vrai que moi, j'ai à peine 1 an en tout, parce que il y a vraiment 6 mois de préparation. Donc c'est vrai que c'était quand même assez rapide. J'ai eu la chance de ne pas me blesser, donc tant mieux. Mais oui, les gens, forcément, tu leur dis ça, le corps médical, au début, ils étaient un petit peu interloqués aussi, quoi. Comment son corps va tenir? Est-ce qu'il a la capacité de le faire? Physiquement, mentalement, est-ce qu'il va tenir? Enfin, tu vois, Mais franchement, heureusement, j'ai été poussé par des gens super bienveillants autour de moi, donc ça m'a encouragé. Tout le monde m'aurait dit non, non, le fais pas, je l'aurais quand même fait. Mais c'est vrai que quand les gens vont quand même dans ton sens, en te disant bah oui, faut que tu te dépasses-toi, c'est important, ça t'aide, forcément.
Tu disais que tu avais été suivi, donc tu as eu le feu vert médical, tu as fait le test
Ouais.
d'effort et tout. Ils t'ont mis aucune réserve, ils ont dit c'est bon, peut y aller, il n'y a pas de. T'avais pas de réserve, ils t'ont pas dit attention sur tel ou tel point.
Bah, si, alors principalement au niveau de l'alimentation, parce que c'est vrai que j'ai perdu du poids, et dans ma maladie, on essaye quand même de. On a plus de mal à prendre du poids de base.
Ouais.
Donc c'est vrai que, si tu veux, je vois régulièrement la diététicienne à l'hôpital. J'ai perdu du poids, hein. J'ai dû perdre quand même 6-7 kilos, je pense, sur ma préparation. Pourtant, je mangeais bien, mais probablement pas assez. Donc voilà, au niveau de ce point-là, il me disait quand même de faire attention. Après, tout ce qui est souffle et cardio, enfin, et au niveau du cœur, bah, j'ai eu plusieurs examens. Il ne voyait pas de contre-indication. Donc, bon, même si au niveau du souffle, je n'ai pas tout récupéré, tu vois, je suis à peu près à 70%. Donc c'est quand même un tiers de moins quand même qu'une personne normale.
Ouais.
Donc voilà, ça allait être plus dur, probablement pour moi, mais il n'y a pas de contre-indication plus que ça, non.
Tu peux encore récupérer du souffle ou pas? Tu sais ça?
J'ai gratté peut-être 2-3%, mais en réalité, c'est compliqué. Une fois que c'est perdu, enfin, malheureusement, alors peut-être dans 10-15 ans, je ne sais pas, mais en tout cas, actuellement, en l'espace de quelques années, c'est compliqué de récupérer. Les bronches ont atrophié, c'est comme si elles étaient mortes un petit peu,
Ouais.
donc c'est compliqué de récupérer. J'en ai parlé avec ma kiné, avec le médecin, normalement, non, tu peux pas récupérer.
Parce qu'en fait, on se rend pas compte, c'est vrai que c'est une maladie. Et tu te dis, il y a plusieurs formes. On peut avoir plusieurs types comment dire, je sais pas comment on peut appeler ça, de conséquences, hein, sur.
Oui, oui, c'est ça. Tu as des gens qui ont. Alors, moi, j'ai les deux. C'est-à-dire que tu as des gens qui ont. On a tous la maladie respiratoire. Ça, c'est. Si tu veux, c'est l'essence même de la maladie. Après, moi, j'ai aussi des problèmes digestifs au niveau du pancréas. C'est-à-dire que les graisses sont mal. J'ai pas l'enzyme qui fabrique les graisses aussi. Donc,
D'accord.
je dois me supplémenter en médicaments dès que je mange. Mais il y en a qui n'ont pas ça, il y en a qui ont que la sphère respiratoire qui est touchée, ils n'ont pas de problème pancréatique, donc eux, bah, ils vont pas avoir spécialement de problème de poids. Un petit peu dû aux infections respiratoires, mais ils ne vont pas avoir trop de problèmes de poids. Moi, j'ai les deux, donc si tu veux, c'était plus compliqué, parce que tu as du mal à prendre du poids, ton souffle n'est pas au top, donc les deux combinés font que c'est plus problématique.
J'ai fait un épisode avec un Paul Fontaine, toi, j'ai retrouvé on avait parlé justement aussi il y avait beaucoup de il avait fait beaucoup il y avait beaucoup de kiné, il y avait beaucoup de comment essayer de faire sortir enfin des c'est je sais pas comment on peut appeler ça, je sais pas du je sais pas comment il m'appelait ça pas des mucus, des choses comme ça
Oui, des sécrétions de mucus,
des
ouais.
sécrétions et tout là aussi c'était une difficulté dans sa vie et tout dans le temps qu'il y avait en kiné qu'il y avait
Oui.
c'est des choses qui sont allégées grâce aux médicaments grâce à ce que tu prends enfin c'est pas
Ouais.
ouais.
Ouais, totalement. Avant, j'avais de la kiné tous les jours. Tous les jours, puisque en fait, ce qui se passe dans la mucoviscidose, c'est que on a tous des sécrétions dans les bronches. C'est juste que quand tu as des poumons qui fonctionnent normalement, tes cils qui sont dans tes poumons sont capables d'évacuer correctement les sécrétions. Et donc, tu n'as pas de problème et tu as même l'impression que tu n'as rien. Ce qui se passe dans la mucoviscidose, c'est que ces sécrétions-là sont beaucoup plus pâteuses,
Ouais.
beaucoup plus épaisses et tes cils n'arrivent pas à remplir leurs fonctions correctement. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, tes poumons se remplissent de mucus, de sécrétions, ce qui favorise les surinfections à répétition. Et donc, la kiné, si tu veux, t'aide à expectorer tout ça. Donc, tous les jours, tu as de la kiné pendant à peu près, moi, c'était à peu près une trentaine de minutes, soit le matin, soit le soir, ça dépendait, pour m'aider à cracher, parce que de toute façon, sinon, tu peux pas respirer, tout simplement. Donc après tu as les antibiotiques et les médicaments qui sont là pour traiter les infections, mais sinon le seul traitement c'était la kiné pendant des années et des années. Donc là le fait d'avoir ce médicament-là, forcément j'ai plus de kiné, parce qu'en fait ce médicament-là il te fait faire le travail de tes cils arrive à expectorer beaucoup plus facilement. En fait ça fluidifie les sécrétions naturellement.
D'accord.
Et donc, tu te retrouves un peu comme si tu avais des poumons d'une personne normale. Les fonctions respiratoires sont normales, en fait, tout simplement. Donc, mais bon, ce qui est perdu, tout simplement. Donc, ce côté-là, on va dire que j'ai le confort sans avoir récupéré ma capacité respiratoire en entier. Mais du coup, j'ai plus de kiné, j'ai plus de médicaments. Je peux faire du sport, je tousse plus, je crache plus. Donc, c'est un confort de vie qui est déjà énorme.
Tu disais que tu avais des problèmes de digestion, tu parlais de problèmes au pancréas, etc.
Ouais.
J'imagine quand même pour. Enfin, il faut de l'énergie. Sur plan
Ouais.
alimentaire, tu disais que tu n'as peut-être pas assez mangé, tu as perdu beaucoup de poids pendant cette préparation.
Ouais.
Tu parlais aussi de la difficulté avec les gels pendant la course et tout. Comment
Ouais.
tu as géré cette partie alimentaire en ayant ces contraintes-là, en fait? En disant. Comment, déjà dans ta préparation. Même si tu vois, tu te dis, ouais, j'ai peut-être pas assez mangé, etc. Mais comment tu essaies de les gérer en tout cas?
J'ai essayé de manger beaucoup de glucides pour toute ma préparation. Tout ce qui allait pâtes, riz, pommes de terre. Après, j'étais aussi suivi par une diététicienne, donc qui me des fois me donnait des idées de repas. J'ai aussi des bon ça j'en ai pas tout le temps pris, mais j'avais aussi des compléments alimentaires à base de comment on peut appeler ça? Ça s'appelle Fortimel, mais c'est du concentré calorique si tu veux dans une
Ouais.
sorte de tu vois ce que c'est à peu près. Et voilà, donc ça c'est très calorique. J'en ai pas pris beaucoup parce que ça m'écœure et j'en ai pris déjà suffisamment quand j'étais plus jeune, donc le fait d'aller bien, là, j'avais plus envie de manger naturellement des choses de tous les jours. Ouais, mais en fait, le gros problème que j'ai eu, c'était entre manger et aller courir. Parce que comme j'ai des problèmes de digestion,
Ouais.
j'avais toujours besoin d'attendre une certaine période avant d'aller courir. Par exemple, moi, j'aimais bien aller courir vers 11h, 11h30 du matin, le matin. Mais du coup, il fallait que je mange pas trop tard pour pas être ballonné, pour pas avoir ce problème de digestion, pour pas avoir envie d'aller aux toilettes pendant que je cours. Donc tout ça pendant la préparation, c'était un petit peu galère de ce côté-là. Mais non, j'ai essayé de manger voilà classiquement tout simplement.
Bah, déjà que c'est pas facile pour tout le monde déjà de
Non,
trouver un
c'est vrai.
truc. C'est vrai qu'en plus quand tu rajoutes des difficultés de fonctionnement qui sont liées à la maladie, j'imagine. J'ai vu ouais, ton fameux Fortimel là, je
Ouais,
vois,
Fortimel, c'est ça.
ouais, je vois ce que c'est. Effectivement, c'est des compléments qui sont hyper énergétiques. Donc
Voilà, c'est des boissons concentrées. Il y a beaucoup de calories dedans.
ouais.
Et c'est pour t'aider à prendre du poids facilement, quoi.
Et c'est vrai que tu as peut-être un objectif qui est par rapport à d'autres. Il y a beaucoup de coureurs qui veulent perdre du poids. Toi, ton objectif, c'était surtout. Alors, tu en as perdu.
Ouais.
Toi, c'est plutôt d'arriver à en prendre ton grand enjeu finalement.
Exactement, c'est ça. Et c'est pour ça que je vais aussi un petit peu en salle de sport pour faire de la masse musculaire, parce que le but, si tu veux, dans ma maladie, c'est de pas. On m'a toujours dit, il faut pas que tu perdes trop de poids, parce que plus tu perds du poids, plus ton organisme est fragile, et donc voilà, tu attrapes plus facilement des infections, tu tombes plus souvent malade. Donc moi, ça a toujours été un enjeu de se dire, attention, faut pas qu'il perde trop de poids. Donc j'ai toujours été matrixé avec ça, et donc. Mais bon, je pense que de toute manière, quand ton organisme se met à courir et qu'il n'y est pas habitué, c'est normal de perdre du poids. Ça, je pense que là-dessus, à l'hôpital, ils m'ont dit que c'était normal. Il fallait juste pas que j'en perde trop. J'en ai perdu quand même 5-6 kilos. Je pense que je vais les récupérer maintenant, là, que je vais courir un petit peu moins. Je pense que je vais les récupérer. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif de retourner à peu près à. Je faisais 60, à peu près 70, 71 kilos à peu près avant de commencer à courir. Donc. Là, je suis redescendu à 65. Je vais essayer de les reprendre rapidement quand même.
C'est comme un sacré changement physique. Et quand je vois les photos et quand je t'ai croisé au salon,
Ouais.
par rapport, t'es sûr que physiquement, t'es plus, même la photo, tu ressembles pas du tout par rapport à celle que tu montrais. Mais c'est vrai que tu t'es, comment dire, t'arrives à prendre du muscle, ça arrive à redévelopper du muscle et tout, à te fortifier quand même beaucoup plus. Ou c'est que ça reste compliqué de prendre du muscle?
Alors, le principal problème pour prendre du muscle, c'est que, comme je te disais, j'avais du mal à digérer tout ce qui est graisse, etc., parce que j'ai pas les enzymes pour. Donc, je suis obligé de me supplémenter avec des enzymes pancréatiques. Mais le problème, c'est que même avec ça, j'assimile pas 100% de ce que je mange comme une personne normale. Je vais peut-être assimiler 75-80%. Il y a toujours une perte, si tu veux, par rapport à une personne lambda. Donc, quand je vais manger un gros, même si je mange un gros plat de pâtes de 250 grammes, avec du beurre, du gruyère, etc., bah, il n'y aura pas le nombre de calories affichées sur la boîte. Donc, c'est sûr que je suis censé manger plus. Et pour prendre du muscle, bah, c'est compliqué, parce que forcément, ça prend plus de temps qu'une personne qui n'a pas de problème. Donc, malgré ça, je vais quand même à la salle de sport, parce que j'ai envie de me développer, que ce soit au niveau des jambes, le haut du corps. Voilà, mais je suis pas mon but c'est pas de devenir le plus musclé, c'est de voilà c'est de avant tout d'avoir la santé, d'être quand même gainé et de pouvoir réussir à courir et faire de la musculation sans me blesser et de durer dans le temps. En fait, moi, mon objectif, c'est de durer dans le temps. Donc Voilà, et je muscle un petit peu, mais sans vouloir en avoir trop, parce que de toute façon, je pense pas que ce soit possible via ma nature. Mais je veux juste être en bonne santé, quoi. Donc oui, je fais de l'exercice physique et ça me correspond bien comme ça.
Donc tu disais 4 séances d'entraînement par semaine. Donc au
Ouais.
départ, j'imagine quoi, c'était des petites distances, hein. Puis petit à petit,
Ouais,
t'as
c'est
pu faire de
ça.
la VMA, t'as pu faire, enfin vraiment des préparations classiques telles qu'elles étaient prévues dans le plan, ou t'as quand même à un moment donné, t'as des trucs qui étaient plus compliqués à faire.
Alors, bah, du coup, j'ai fait une préparation campus. Donc, j'avais 4 séances. J'avais à peu près, le lundi, généralement, c'était une séance 10 km, voilà, en endurance fondamentale. Donc, celle-là, elle n'était pas trop difficile. Milieu de semaine, j'avais, par exemple, le mercredi et le jeudi, j'avais 2 séances de fractionnés. Donc, variation d'allure. J'avais des séances VMA, ce genre de choses. Et le week-end, j'avais en général une sortie longue. Donc, entre 10, 15, 20 km, mais 20 km sur la fin de la prépa, mais ça n'a jamais trop dépassé 20 km. Donc, au début, bah, forcément, en septembre, quand je commence la prépa, je suis excité, j'ai trop envie de courir, je me prends au jeu, quoi, forcément, à force. Enfin, pas rapidement, mais au bout de 2 mois, j'ai commencé à avoir un petit contre-coup quand même. Je pense que je suis parti un petit peu trop vite. L'erreur que j'ai faite, si tu veux, c'est que bon, des fois, je devais courir en endurance fondamentale, et j'étais tellement content de pouvoir courir que je respectais pas forcément les allures. Au début, j'ai pas trop respecté les allures. Voilà, il me disait faut courir à 6. Bah non, moi, je vais courir à 5, 15, 5, 20, ça me fait plaisir. Et sauf qu'au début, bah, t'es content, mais arrivé à 2, 3 mois de préparation, bah non, je l'ai payé. Quand il a commencé à faire froid vers novembre, là, quand il a commencé à pleuvoir, faire froid, mon organisme l'a fait sentir et j'ai dû arrêter peut-être une semaine, 10 jours, parce que physiquement et mentalement, ça commençait à devenir dur. Et c'est principalement l'erreur que j'ai faite, c'est de vouloir trop en faire.
Surtout qu'il faut, enfin, on le dit, hein, sur les préparations, on peut s'épuiser. On peut être malade parce qu'on puise dans l'énergie. Donc, si en plus tu es sensible, tu te disais, en plus aux virus, aux infections, etc., rajouter les choses dessus, c'est toujours trouver le bon équilibre. Alors, c'est pour tout le monde, la difficulté, c'est d'arriver justement à trouver cet équilibre-là, surtout sur une préparation aussi longue. Parce que t'as pas eu de la lassitude par moment, te dire tiens, c'est encore loin, enfin, ou.
Si, 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 clairement. Bon, surtout quand tu t'entraînes tout seul, il y a un moment où les sorties longues, tu te dis là, faut partir sur 15-20 km, ça va me faire quoi? Ça va me prendre 2 heures. C'est vrai que il y a un moment où tu perds en motivation. Je suppose que c'est normal. Mais voilà, je me disais toujours, perds pas ton objectif de vue, tu sais pourquoi tu fais ça. Et mine de rien, ça m'a aidé dans les moments où j'avais pas envie d'aller m'entraîner, parce que je suis comme tout le monde, hein. Il y a des moments où tu te cherches des fausses excuses parce que tu n'as pas envie d'y aller. Donc, quand c'était vraiment le cas, j'ai essayé au maximum de ne pas louper un entraînement. Bon, par exemple, si j'avais un entraînement à faire le jeudi, et vraiment le jeudi, soit j'étais pas très bien, ou vraiment j'avais la flemme, je me disais, bon, écoute, repose-toi, tu le feras demain, tu décales d'un jour. J'essayais comme ça de pas louper d'entraînement. Ça m'arrivait quand même d'en louper quelques-uns, mais j'ai essayé le plus possible de respecter le plan. Et ce qui m'a fait du bien, c'est de le mercredi, j'ai rencontré un groupe qui courait à plusieurs à côté de chez moi. Ça s'appelle d'ailleurs courir à plusieurs. Et le mercredi, voilà, et ça m'a permis de rencontrer du monde. On va courir à chaque fois, on est peut-être une dizaine, quinzaine. C'est un rythme tranquille, c'est aux alentours des 6. Mais voilà, ça m'a permis de pouvoir parler avec des gens qui couraient, parce que moi, j'étais finalement assez isolé. Voilà, dans ma famille, ça court pas trop. Dans mes amis, ça court pas. Donc là, ça m'a fait du bien de rencontrer des gens, de pouvoir discuter de mes doutes, de marathon, de course, de programme, alimentation. Enfin, tu vois, tu parles avec d'autres coureurs. Donc forcément, ça m'a fait du bien physiquement et mentalement. Et ils m'ont aussi poussé. Et je les remercie parce que ça m'a aidé à pas pu être tout seul, on va dire.
Ouais, mais c'est important, je pense, parce que des fois, quand tu fais des trucs tout seul, tu as l'impression d'être bizarre ou d'être le seul à faire ton truc. Et quand tu rejoins des gens qui font préparent ça, puis en plus il y en a d'autres qui préparaient le marathon, j'ai vu, hein, on a parlé de l'article de presse et tout.
Ouais.
Tu te rends compte qu'en fait t'es un bizarre, mais qu'il y a d'autres bizarres. Et t'es pas le seul bizarre, et qu'en fait vous pouvez avoir les mêmes préoccupations, les mêmes questionnements, les mêmes, des fois un petit peu toc sur des trucs en disant bah tiens, je m'occupe de mes chaussures, je fais mes chaussettes, je les plie de telle manière ou je ne sais pas quoi.
Oui.
Tu vois ces trucs, parce que je t'ai vu là une scène, là, t'avais fait une vidéo où tu nettoyais tes chaussures. Moi je nettoie jamais mes chaussures comme ça, mais tu le fais encore ça, de nettoyer tes chaussures à la brosse?
Non,
là, comme ça?
non, mais en fait, à un moment, je me suis dit aussi, en fait, quand j'ai commencé à courir, c'était un monde étranger. Et puis, à force de regarder des vidéos, de discuter avec des gens qui couraient, j'ai voulu faire quelques vidéos humoristiques, un petit peu. Et celle-là, elle me faisait rire parce qu'en fait, au début, les 2-3 premières semaines où j'allais courir, vraiment, mes chaussures, je voulais pas qu'elles soient pliées, je les nettoyais. Et puis à la fin, c'est ce que je fais dans la vidéo, je rentre et je les balance comme ça direct en mode, tu vois, pleine de boue, j'en ai rien à faire. Donc, mais ça, je pense que tout le monde fonctionne pareil. Au début, tu prends soin de tes affaires et puis après.
C'est-à-dire que je pense quand même, c'est que quand tu as des nouvelles baskets, tant qu'elles n'ont pas pris la première flaque d'eau, la flaque de boue, tu évites de placer dedans. Et une fois qu'elles ont passé la première flaque de boue, après tu te dis, bah tant pis, maintenant c'est fait, je finis par mettre les pieds dedans. Je
C'est ça,
crois qu'on est à
exactement.
peu près tous pareils là-dessus. Tiens, j'ai eu ce matin un commentaire de quelqu'un qui me demandait s'il pouvait mettre ses baskets dans la machine à laver. Moi, c'est un truc que je n'ai jamais fait. Je les frotte un petit peu et tout. Je sais que c'est pas
Ouais.
bien d'ailleurs. Je sais que j'en prends pas soin totalement. Mais quand je vois qu'elles arrivent à 2000 km malgré tout, je me dis, bon, c'est pas si mal que ça, en tout cas sur certaines paires. Mais c'est vrai que y a des. Je te comprends, et dans cette histoire, et ce que je disais, tu sais, c'est l'histoire, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et c'est vrai
Oui.
que quand tu commences un sport comme ça, et si ton entourage ne fait pas ce sport, bah finalement, t'as pas leurs pratiques, leurs habitudes, les conseils qu'ils peuvent te donner. Donc, pour ceux qui sont aussi, et c'est intéressant, je trouve, tu vois, de dire, t'as rencontré ce groupe-là, t'as vu aussi leurs discussions, t'as pu échanger avec eux, t'as pu avoir des conseils. Mais c'est aussi le cas, je trouve, avec l'histoire de ton compte Instagram, finalement. C'est de dire, bah, le compte Instagram, du moment que tu as des gens qui commencent à le voir, qui commencent à discuter avec toi, tu peux avoir des messages, des échanges. Et ça te change aussi des gens que tu côtoyais avant, de tes amis, du personnel soignant, kiné, etc. C'est un autre monde qui s'ouvre à toi.
Ouais, carrément. Et c'est un monde qui fait du bien en réalité, parce que quand t'es dans ton petit monde comme ça, comme tu disais, le corps médical, tes amis, ta famille, le fait de pouvoir, voilà, discuter avec des gens d'un univers que tu connais quasiment pas, bah, c'est hyper enrichissant et ça fait du bien et ça motive. Et la preuve, c'est que le groupe, je vais continuer à y aller alors que actuellement, j'ai pas d'objectif de course particulier. Je vais juste continuer à courir comme ça. Mais tu vois, j'ai envie d'y aller parce qu'il y a l'aspect social. Tu fais des rencontres en fait, et les rencontres, elles vont même au-delà de la course finalement. Donc c'est top. Et j'en ai besoin même. Tu vois, ma sortie du mercredi, je me dis bah c'est mon lien social avec des gens qui sont pas finalement dans mon cercle privé, quoi, tout simplement. Donc c'est comme n'importe qui irait à sa séance faire son, je sais pas, son entraînement de foot, ou bah moi c'est le mercredi, je vais faire ça, je vais voir les gens avec qui je cours, et franchement j'adore.
Ouais, et écoute, je te comprends parce que moi, les gens du club, des fois, ils me manquent. Des fois, je les croise et tout, je discute avec eux et tout, tu vois. Et puis, je me dis, oh, est-ce que l'an prochain, je me réinscrirai pas au club? Est-ce qu'il y a encore telle ou telle personne, etc. Tu vois, des fois, je les croise sur les chemins, je les vois sur les photos. Et c'est vrai, et que la course, c'est un sport qui peut être très solitaire, mais qui peut devenir un sport d'équipe d'ailleurs, parce que peut-être un jour. Et je te le souhaite, peut-être un jour tu feras ce qu'on appelle les équidènes, où c'est vraiment des relais, un marathon en relais. Enfin, il y a aussi le fait de courir à plusieurs, il y a aussi le fait de courir pour des causes. Enfin, il y a tout un tas de choses où en fait on peut se dire que la course, c'est pas un truc solitaire. C'est potentiellement on peut être solitaire, mais on peut aussi le faire en groupe. Et que justement, c'est bien aussi des fois d'avoir des. Ça sort pas forcément des clubs, parce que c'est même pas un club officiel là,
Non, c'est pas
ce
un club. Ah
groupe.
non, c'est gratuit. C'est juste des gens qui ont la même passion et on se retrouve comme ça. En tout cas, nous, c'est le mercredi à côté de chez moi, mais il y a des groupes un petit peu partout dans la ville. Il y en a, c'est le mardi, ça va être le centre-ville. Il y en a, ça va être un autre jour où ça va être un peu plus éloigné. Voilà, chacun peut créer un groupe et chacun peut créer un événement. Bah, moi, par exemple, je dis, bah, là, dimanche, je vais faire 15 km. je montre l'endroit auquel je vais aller courir, et puis bah, les gens, ils viennent, quoi. Ou ils viennent pas, mais en tout cas, tu peux créer ton événement facilement. Et en général, tu as quand même au moins 2-3 personnes qui sont là au minimum pour courir avec toi.
Et je donne, hein, c'est vrai que c'est un conseil, et puis je pense que dans les périodes aussi où tu l'as dit, hein, où on est un peu plus bas au moral, etc., le fait d'aller retrouver des gens, c'est aussi un élément de motivation supplémentaire. En plus, quand tu sais que tu vas discuter, peut-être raconter des petites blagues, ça se motive les uns les autres.
Ça. Et puis là, le truc, c'est que bah, comme tu dis, tu peux courir seul ou à plusieurs, mais par exemple, le marathon, finalement, c'est une épreuve où tu es seul, mais on était quand même une dizaine à y aller. Donc, quand tu sais qu'il y a une dizaine de personnes qui vont courir le marathon avec toi, surtout que la plupart étaient dans les sas 3h45, 4h aussi, donc tu fais pas la course finalement avec eux, mais tu sais qu'ils sont pas très loin et tu les vois avant, tu les vois la veille. Tu t'envoies des messages en mode bonne course pour demain, j'espère que ça va le faire, ceci, cela. Donc, tu cours seul, mais t'es pas réellement seul, en fait. Et ça, c'est le pouvoir partager aussi, aller ensemble à une course. Je trouve ça super. Là, par exemple, ce week-end, il y avait encore une course. Bah, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont fait ça s'appelle l'Urban Trail. Ils étaient plusieurs à la faire et tu te mets sur le bord de la route, tu les vois. Enfin, je sais pas, il y a un côté quand même vraiment sympa, je trouve. T'as l'impression de pas être seul.
Tiens, toi qui es nouveau dans la course, t'as des trucs qui te surprennent chez les coureurs, des trucs que tu t'as découvert en courant, tu dis c'est bizarre ou tu vois?
Ouais, le truc le plus bizarre que je trouve, c'est je trouve que c'est quand tu passes à côté d'une personne, tu as tendance à accélérer. Ça, c'est le truc le plus. Même moi, je le fais. Tu sais, je suis là, je cours à 6, je passe à côté d'une personne ou alors à côté d'un. Le pire, c'est quand tu passes à côté de quelqu'un d'autre qui court. Tu croises comme ça et je sais pas pourquoi, tu as besoin d'accélérer pour montrer que, je sais pas, tu es en forme, tu cours plus vite, je sais pas. Je pourrais pas l'expliquer, mais ça, c'est vraiment le truc qui m'a marqué.
Ouais, c'est vrai. Et ça, je pense que tout le monde, on est tous un petit peu couillons avec ça. Et après, bon, on a chacun nos petites manies et tout. Hein. C'est vrai qu'à une époque, j'aimais pas me faire doubler par les plus vieux. Puis maintenant, je me rends compte quand même qu'il y a des vieux, ils courent vite. Hein. Enfin, franchement, arriver à suivre.
Ouais.
Et ce matin, je partais en voiture, c'est l'anecdote. Et il y avait quelques personnes qui couraient dans la rue. C'est tous des personnes âgées. Et j'ai regardé comment ils étaient taillés et tout. Mais j'arriverai jamais à les suivre. Je les voyais courir. Et bien, en fait, des fois, je les vois courir et tout. Et il y en a qui me doublent. Et c'est vrai. Et maintenant, je me suis fait une idée avec ça. Tu vois, de me dire, oui, mais moi aussi, quand je serai vieux, je courrai aussi vite que, tu vois, le vieillard galopant,
Oui.
qu'on veut tous devenir. Ben, il est aussi imagé par ces personnes-là qui ont peut-être plus le temps de courir. Je sais pas leur carrière, tu vois, ce qu'ils font depuis des années ou pas et tout. Mais je trouve ça amusant parce que c'est vrai qu'à un moment, et j'avais raconté ça sur un mes trails, j'avais complexé de me faire doubler par un vieux. Et puis maintenant, je me dis. Il y a des trucs que j'apprends, et puis peut-être qu'un jour je serai le fameux vieux qui doublera le jeune aussi, ce qui m'arrive des fois de temps en temps, et je serai content que ça m'arrive aussi à nouveau. Mais c'est vrai qu'on a tous cette histoire d'accélérer, je pense, je sais pas, peut-être, je sais pas, c'est peut-être une histoire d'ego, peut-être une histoire d'image de
Ouais,
soi.
c'est vrai, c'est étrange, hein, mais j'ai vraiment repéré ça. En fait, moi, ça m'est arrivé naturellement. Même les premières fois où je suis allé courir, je me suis dit, bah, je me suis mis à accélérer comme ça sans raison, et j'ai remarqué que tout le monde faisait ça. J'en ai discuté avec des gens, et effectivement, ça touche tout le monde.
Alors, un jour, on va inviter un psychologue, on va essayer de savoir ce qui se
Ouais.
passe dans le fonctionnement, dans la tête, comme ça, hein, quand on voit quelqu'un, pourquoi on le fait ça. Mais je pense qu'il doit y avoir plein d'anecdotes, et je pense qu'il y a plein de gens qui ont ce truc-là. Je t'ai pas demandé, mais parce que j'ai vu sur ton compte Instagram, j'ai vu que tu avais fait un semi, donc tu es passé par l'étape du semi, intermédiaire.
Oui,
Hein.
oui.
Ça t'a rassuré? T'en as pensé quoi de ton semi? Ça t'a aidé sur ton chemin? Parce que on n'est pas obligé de faire un semi pour faire un marathon, faut déjà le dire aux gens, mais toi, ça t'a aidé ou pas?
Alors, ça m'a déjà. En fait, ça m'a aidé à mieux comprendre la distance, dans le sens où, quand j'ai fait 21, je me suis dit, OK, là, à la fin, je me suis dit, OK, là, t'es vraiment à la moitié du marathon. Donc, ça m'a donné quand même une idée de ce qu'était un marathon. En sachant que le marathon, c'est pas 2 x 21, c'est la deuxième partie est quand même plus dure. Donc je me suis dit, ok, mon semi, j'étais quand même assez fatigué à la fin. C'était un semi qui n'était pas facile, il était quand même assez vallonné, il y avait des parties chemin plus bitume. Donc quand je l'ai terminé, je me suis dit, il faut faire 2 fois ça. Ok, c'est quand même quelque chose, ça va être compliqué. sachant que bah, forcément, plus les kilomètres passent, plus je vais être encore plus fatigué. Donc, ça m'a un peu fait peur sur le coup. Je me suis dit, oula, ok. Là, j'ai vraiment pris conscience de ce que c'était un marathon avant même de le faire en me disant, ok, c'est deux fois ça va être compliqué.
Et finalement, avec le recul, tu le referais ce semi? Tu te dis c'était une bonne idée ou pas?
Ouais. Oui, je le referai. Je pense même que ça me paraît très court, en fait, maintenant. Quand t'as connu le marathon, le semi, finalement, tu te dis c'est la moitié. Mais je pense que c'est. Non, c'est pas forcément obligatoire pour faire un marathon, mais ça te donne quand même un ordre d'idée sur comment ta première partie de course va plus ou moins se dérouler. Donc, ça m'a permis de me dire, OK, est-ce qu'au 10e, je suis encore un peu frais? Oui. Est-ce qu'au 15e, ça va? Ouf, ça commence à piquer un peu. 18e, 20e, 21e, voilà. Donc ça m'a donné, en fait, ça m'a. Moi, je voulais faire ça surtout pour apprendre, avoir une expérience de sas, avoir une expérience de course, de départ, d'arrivée. Je l'ai plus fait pour l'expérience, celui-là.
Ça ne met pas un doute quand même, parce que moi j'ai vu ton descriptif de ta course. Tu dis c'était dur. À partir du 10e kilomètre, tu as commencé à sentir les premières difficultés.
Ouais.
Tu es à un mois du marathon de Paris.
Ouais, c'est vrai.
Ça ne met pas un peu un doute, enfin, maintenant,
Si,
avec le
si.
recul, quand tu y penses?
Totalement. Après, bon, je sais que ce semi-là était pas facile parce que j'en ai parlé avec d'autres après. Mais sur le coup, je connaissais pas trop le parcours. Je suis arrivé comme ça. Quand je vois qu'au 10e, c'est dur, je me dis, bon, sur le coup, je réfléchis qu'au 21. Tu vois, je me dis, bon, faut que j'aille jusqu'au bout du semi. J'arrive à avoir un second souffle vers le 13e, 14e, je m'en souviens. Je m'accroche jusqu'au 17, 18e et les trois derniers, ça recommence à être dur. Et franchement, quand j'arrive, je me dis, mais comment je vais faire? Je me dis, là, et ton semi, tu l'as fait en 1h50, ouais, je l'ai fait 1h51, je crois. Je me dis, mais c'est pas, ça va être chaud. Enfin, ça va réellement être chaud. Là, t'es cramé déjà. Comment tu vas faire? C'est vrai que j'y ai pensé après. Je me disais, mais ça va vraiment être compliqué. Quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, bah, et soit le temps que tu vises au marathon, il est trop élevé, soit je sais pas comment tu vas faire, mais ça va être compliqué. Mais oui, comme tu dis, j'y ai pensé en tout cas.
Et c'est pour ça que le SMI, normalement, c'est un truc de répétition, de préparation, de rassurance aussi. Mais c'est vrai que des fois, il peut mettre un peu le doute, hein, en se disant, ouah, punaise, il y a ça. Et on rappelle, et tu as bien fait de le dire, hein, un marathon, c'est pas deux semis. Parce que tu vois bien que tu as bien vu toi aussi que à partir d'un certain kilométrage, les kilomètres, tu as l'impression qu'ils pèsent, ils sont plus longs. Je ne sais pas toi comment tu les as ressentis. Moi, j'ai l'impression que. Le 38e était tellement beaucoup plus long que les autres kilomètres. Fou là, qu'est-ce qui paraissait long celui-là. Alors que le 41e a été tellement court.
C'est vrai. Ben en fait, je suis totalement d'accord avec toi. C'est qu'à partir du ouais, 35, 36, 37, on va dire, jusqu'à 40, ouais, entre 35 et 40, t'as l'impression que c'est super long. Tu comptes les kilomètres. En plus, ça me perturbait parce que tu sais, ta montre, il y a toujours 300-400 mètres de différence avec les points du parcours.
Ouais.
Donc j'arrivais par exemple au 36e sur ma montre, et en fait, c'était que 400 mètres après que je voyais le 36e sur le parcours. Donc ça me donnait des ça me mettait un coup au moral. Et ouais, c'était super long, le kilomètre. Alors le 41e, ça va, parce que après, tu as une petite descente vers l'arrivée, 41, 42. Mais ouais, les 5 là, entre 35 et 40, ils sont vraiment longs. Tu te dis, mais j'ai l'impression que tu vas jamais arriver.
Moi, je sais que je me rappelle, j'avais bien galéré dans ce moment-là. Et puis ensuite, je vois le panneau 40e ou 41e, je sais plus lequel. Et je me suis mis à dire, ah bah ça y est.
Oui, c'est ça.
Hop, tu bascules en fait. C'est-à-dire que là, tu t'attaches. C'est un peu le changement de dizaine. Alors des fois, les gens, ils redoutent le changement de dizaine quand c'est une question d'âge. Tu verras ça, toi, dans un an et quelques. Si tu le redoutes ou pas. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, quand tu passes les 40e, tu dis, allez, hop, maintenant je suis dans la dernière. En plus, le parcours, tu disais, permettait peut-être plus facile sur la fin, avec une petite descente et tout. Mais c'est vrai que mentalement, il y a un aspect. Tu as été surpris mentalement par des choses, tu t'attendais pas à ça sur la course.
Oui, bah, positivement l'ambiance, je m'attendais pas à ça. Et après, Les gens qui disent, quand tu es au 35e, les gens qui disent, allez, on s'accroche, c'est bientôt la fin. Il reste 7 km. 7 km, si tu es en difficulté, ça te fait à peu près, moi, dans mon cas, c'était à peu près 40-45 minutes. 45 minutes, c'est bientôt arrivé. Bof, quand même. Ça m'énervait, tu sais, les gens, allez, accroche-toi, t'es bientôt arrivé. Non. Non, non. Ça m'énervait, ça.
De mon point de vue à moi, c'est ça la relativité en fait. Je pense qu'Einstein, s'il avait fait la théorie de la relativité en course à pied, il aurait vu ce truc-là en fait. C'est comme les gens, moi je me rappelle sur les ceux qu'on fait, il y a plein de courses, sur un trail notamment, ils disent, oui, bah c'est bon, vous avez fait les dernières difficultés. Et quand tu connais le parcours, tu dis, ah, non, mais moi j'en ai vu une plus loin, vous êtes sûr? Et ils disent ça
Oui, c'est
sur un
ça.
ravito, ils disent, non, mais moi j'ai vu le puits là, la petite montagne là et tout, et elle est dure celle-là. Ouais, mais elle est pas haute. Ouais, mais elle est dure quand même. Et je trouve que c'est là une certaine relativité, c'est-à-dire qu'après 25 km, la petite montagne qui paraît pas longue et haute, des fois peut être bien plus longue. Et je pense que ces histoires de kilomètres, c'est assez drôle. Et je vois très bien ce que tu veux dire, parce que c'est vrai que c'est on a une relation différente, alors que les premiers kilomètres, tu l'as dit au début. Ils sont tellement faciles, t'as l'impression de voler, tu t'es préparé pendant des mois et des
Ouais.
mois pour le vivre, t'as l'ambiance de la course, c'est porté par l'ambiance, par tout ce que t'as vécu et tout. On n'a pas du tout la même sensation dans les kilométrages, quoi.
Non, non, et puis là, quand tu arrives en plus vers le 35e, tu vois beaucoup de gens qui marchent. En fait, c'est marrant parce que l'aspect de la course, il est totalement différent. Quand tu pars au début, tout le monde a le sourire, c'est tu vois les gens qui vont vite, ça rigole, les gens ils parlent. Et moi, j'étais vraiment surpris de quand tu arrives vers le 35e. Mais c'est une hécatombe en fait. T'as peut-être un tiers des gens qui marchent. Je commence à voir des gens sur le côté qui sont allongés avec le SAMU. Et je me dis, mais toi, t'es en train de t'accrocher parce que t'es pareil, t'es en train de te dire, je vais lâcher comme eux. Et c'est marrant, t'as l'impression que là, tu passes, c'est l'apocalypse d'un coup, comme ça, là, sur les 5-7 derniers kilomètres. C'est un champ de bataille, le truc, quoi. J'étais vraiment, ça, je m'y attendais pas, tu vois, parce que quand tu fais des 10 ou des semis, bon, t'as toujours quelqu'un qui abandonne sur le côté de la route, mais c'est. Tu vois, tu vas peut-être voir une ou deux personnes, mais là, c'était vraiment des centaines de gens que tu voyais au fur et à mesure marcher, s'écrouler, des gens pleurer. J'ai vu des gens vomir. Enfin, tu te dis, mais on est vraiment tous dans nos retranchements, quoi. Et je me disais, mais moi, je souffrais, mais je me disais, mais tout le monde souffre, en fait, quoi. On est tous dans la même galère.
C'est un côté rassurant en fait, je pense. Mais vu de l'extérieur pour des gens qui courent pas, et pour revenir à ce que me disait ma femme ce matin, elle me dit, mais je comprends pas pourquoi. Elle me dit, j'ai vu les images, mais pourquoi vous faites ça? Tu le sais pourquoi t'as
Ouais,
fait
c'est
ça
clair.
finalement quand tu y réfléchis? Enfin, quand tu te dis maintenant la grande leçon de cette grande aventure?
Bah ouais, tu vois, c'était pour le. Je me dis, c'était pour le dépassement de soi. Tu as toujours envie de. Quand pendant longtemps, tu as été bridé, j'avais besoin d'en apprendre plus sur moi, tu vois, et de me dire, mais. Jusqu'à où je suis capable d'aller dans la douleur alors oui, la maladie, c'est une sorte de dépassement de soi, mais c'est pas pareil, c'est pas le même pour moi, c'est pas la même épreuve. Là, tu es vraiment physiquement, mentalement, tu as les deux où tu es totalement impacté, et j'avais besoin d'en apprendre encore plus sur moi dans ce genre d'épreuve, en me disant, mais jusqu'à où tu es capable d'aller? Est-ce que tu vas lâcher? Est-ce que tu vas pas lâcher? Est-ce que tu vas t'accrocher? Comment tu vas finir? Et ça, c'était une grosse partie de mon challenge. J'avais vraiment envie de voir à quel point je pouvais me dépasser sur ce type d'épreuve. Et puis, bah oui, le fait de faire ça aussi pour les autres, c'est une motivation supplémentaire. Et c'est pour ça que j'ai pas lâché. Je pense probablement que j'aurais peut-être lâché si j'avais pas eu autant d'encouragement ou de gens derrière moi. Et si j'avais juste dit, bon, je fais un marathon pour faire un marathon comme ça, mais il n'y avait pas de pourquoi derrière, probablement j'aurais peut-être pu lâcher. Et le fait d'avoir tout ça, ça t'aide quand même à. Ça t'aide forcément à t'accrocher. Donc, je pense que ces éléments-là ont fait que je suis allé jusqu'au bout.
Bon, on l'a dit, maintenant tu connais, ça devient du connu, cette distance-là. Tu disais, bon, maintenant tu peux envisager d'en faire un autre, ou d'autres courses de ce type, ou
Oui,
d'autres
oui, oui.
distances, d'autres choses?
Alors là, le programme pour le moment, c'est que bon, comme je sors 6 mois de préparation à peu près à 4 fois par semaine, là, avec les beaux jours qui arrivent, je pense que jusqu'à peut-être septembre, je vais continuer la course, mais peut-être 2 fois par semaine. Une fois le mercredi, une fois le dimanche, peut-être, tu vois, pour garder les liens avec les gens, et puis aller courir une fois le week-end comme ça aussi, pour pas perdre. Parce que l'objectif, c'est aussi de. J'ai pas envie de perdre tout ce que j'ai acquis. Ce serait
Ouais.
quand même dommage d'avoir fait 6 mois de prépa à un marathon pour arrêter de courir. Déjà, j'en ai besoin, mine de rien, mentalement, je m'en suis rendu compte.
Ouais.
Parce que quand tu vas, c'est rare de t'en sentir plus mal après avoir couru que quand tu pars. Ça, même si t'es stressé, que t'es angoissé, je sais pas, t'es fatigué, courir, ça fait toujours du bien. Enfin, en tout cas, même moi, à chaque fois que je suis allé courir, je sortais de là, j'ai toujours dit, j'ai bien fait d'aller courir.
Ouais.
Donc j'en ai besoin physiquement et mentalement, et puis bah, même pour mon souffle, tu vois, pour ma santé, j'ai quand même le cardio, c'est important. Donc je vais continuer 2 fois dans la semaine, pas de prise de tête, et puis probablement à la rentrée, j'essaierai de me fixer peut-être un autre objectif. Est-ce que un marathon en 2025, peut-être une course fin 2024, pour le moment, je ne sais pas. Je ne me mets pas la pression, mais en tout cas, oui, est-ce que j'ai envie de recommencer l'épreuve? Certainement. Je suis sûr que je ferai un deuxième marathon, ça, il n'y a pas de doute. Quand, je ne sais pas. Mais j'ai envie de refaire, hein, ça c'est sûr.
Bah écoute, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, parce que je pense que c'est aussi un signe de ta santé, de
Oui.
que tu sois capable de courir, de le faire comme tu le fais. Et c'est ce que j'avais retenu aussi quand je t'avais croisé, c'est finalement de dire bah, j'ai la santé maintenant pour faire quelque chose que qui te semblait inimaginable. Et on parle quoi, 2020, tu m'as dit à peu près,
Ouais,
quand tu...
2020, 2021, ouais.
Ouais. Quand on voit les images, pour ceux que, donc je mettrai les liens dans les notes de l'épisode pour ceux qui vont aller
Okay.
voir ton compte. Allez voir tout en bas, c'est quoi? C'est ta troisième publication
Ouais.
pour voir le changement. C'est vrai que le témoignage le avant-après, je pense que quand on te croise, on peut pas l'imaginer en fait. Tu vois, moi si j'ai pas vu les images. Même si quand ta maman disait que t'as perdu beaucoup de poids, que t'avais perdu beaucoup de. Sans voir l'image, je pouvais pas l'imaginer. Donc c'est vrai que c'était le fait que tu l'aies publié aussi permet peut-être de se rendre compte aussi de l'impact, parce qu'on entend parler de ces maladies, mais peut-être des gens qu'on croise, on ne sait pas qui les ont, parce que elle est, je sais pas
C'est
si on...
pas visible comme ça au premier abord, quoi. C'est
Voilà.
ça, c'est pas marqué sur ta tête que t'as ça, c'est sûr.
Ouais. Et quand on te croise comme ça, quand on voit, t'as l'air d'un coureur tout à fait lambda, et c'est ce que je trouve qui est bien en fait dans la course aussi, c'est que tu es un coureur tout à fait lambda, c'est-à-dire que tu cours pas avec un panneau. D'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser. Tu cours pour une association, pour la MUCO, ou parce que tu as dit qu'ils t'avaient relayé ton parcours sur un poste, hein. Je
Ouais.
mettrai le lien aussi dans notre épisode parce que j'avais mis en stock. Tu cours pour eux ou finalement tu cours à tes propres couleurs, j'ai envie de dire, tu vois, enfin.
Non, non, alors je cours avec. J'ai pas de bannière.
Ouais.
À l'avenir, ça réfléchir. Moi, je suis franchement courir pour que ce soit la MUCO ou même. Parce que je cours pour la MUCO, mais je cours en vrai pour tous les malades, tu vois. Parce que quand tu affrontes la maladie, si on est tous. Peu importe ta maladie, on est tous touchés par les mêmes choses au final. Donc, oui, franchement, courir sous bannière plus tard, pourquoi pas, sur certaines courses, franchement, avec grand plaisir. Mais non, là, je l'ai fait, évidemment, j'ai contacté la MUCO et toutes les associations, l'association Grégory Lemarchal aussi, etc., qui luttent contre la mucoviscidose, tout ça, je les ai prévenus, mais j'ai pas de bannière. Mais franchement, ça me ferait plaisir de courir pour une maladie ou pour une association. Franchement, j'y vois pas d'inconvénient.
Ouais, mais tu vois, la grande force de la course aussi, je trouve, c'est que, bah, en fait, au départ, tu sais pas, tu vois, toi, tu courais, personne, tes voisins, ils savent pas, en fait, que tu as la mucoviscidose.
Non.
Tu sais pas ce que font les autres, les voisins, etc. Et puis, vous étiez partis 54 000 comme ça, courir tous ensemble. Tu as discuté avec les gens un peu en courant, ou pas? Parce qu'il y a des gens qui courent. Moi, mon président de club, il dit, oh, moi, je passe mes marathons à courir avec les gens, à discuter avec les gens avec lesquels je cours. T'as croisé des
Non.
gens, toi, pendant la course?
Non, alors la seule personne avec qui j'ai discuté, c'est qu'il y avait un ami à moi qui l'a fait aussi et qui gentiment est resté à côté de moi. Donc voilà, je lui parlais quand c'était difficile, mais non, j'ai pas parlé spécialement avec les gens. Mais tu vois, pour en revenir à ce que tu disais, on était 54 000, c'est vrai, et parce que moi, quand je suis arrivé, tout le monde m'a dit félicitations. Bravo, tu te rends pas compte de ce que tu as fait. Et j'avais l'impression que leur performance à eux, ils s'en fichaient, tu vois. Ils me disaient, bah non, c'est toi qui comptes. Et je leur disais, mais en fait, moi, je peux te dire que quand j'ai vu les gens sur le côté, là, s'évanouir, vomir, pleurer, je leur ai dit, mais en fait, non, n'a pas le droit de dire ça. On est tous, ok, j'ai une particularité, mais on a tous fait un marathon, et le marathon, il est dur pour tout le monde. Les gens à qui je disais ça, ce n'est pas des professionnels, ils ne le font pas en 2h15. Enfin, c'est des gens lambda, et je sais que pour eux, c'était compliqué. Je leur ai dit, mais on est tous des guerriers, en fait. Enfin, il n'y a pas de. Que tu les fais en 6 heures, en 4 heures, enfin, c'est dur pour tout le monde. Donc, par rapport à ça, je leur disais, arrêtez de me féliciter parce qu'on est tous. Enfin, je sais que les gens, ils ont envie de me féliciter, mais on a tous fait un truc de fou, quoi. C'est ça, je tenais à leur dire parce que c'est pas anodin de faire un marathon, quoi.
Et c'est vrai, et on le disait en plus, hein, c'est que c'est fait partie des courses comme ça, parce que dans
Ouais,
l'épisode
merci.
avec Nicolas, qui court en sandales, qui fait un marathon lui en 2h39, là comme ça et tout,
Ah bah oui.
je disais, toi, t'avais l'air d'arriver frais à l'arrivée, c'est ce que j'ai, le genre de truc, je dis, toi, t'avais l'air d'être frais, etc. Mais c'est vrai que, en fait, tout le monde le vit différemment, à des moments de haut, de bas, de fraîcheur, de pas bien, etc. et tout. Et je crois que pour toutes les personnes, c'est une épreuve qui n'est pas si anodine que ça, et qui génère de la fatigue, qui génère du stress, qui génère du même avant, pendant, après, enfin voilà. Et que ben, en fait, on est tous, quand on le finit, on est tous champions du monde de notre monde. Et on a tous vu des images. Bon, cette année, on a vu beaucoup l'image de celui
Du gars qui s'écroule
qui
devant l'arrivée,
s'écroule
là.
à
Oui,
l'arrivée.
ouais.
Je me rappelle, parce que j'avais eu en invité Fanny, l'an dernier, c'était la grande image de l'an dernier, c'est qu'il pleurait sur la ligne d'arrivée,
Oui,
on la voit courir
je
et
vois.
tout, et qui disait, bah, chaque année, il y a ces images-là qui reviennent et qui montrent à quel point il y a une charge émotionnelle, une charge physique, une charge mentale, du stress et tout, de cette épreuve-là, qui la rend. Alors, je sais pas si elle est magique, je sais pas si toi tu dirais que c'est une épreuve magique, mais en tout cas, on n'est pas obligé d'en faire un, mais une fois qu'on l'a fait, qu'on est devenu marathonien, on se dit quand même, c'est une épreuve ça ressemble pas aux autres.
Ah ouais, c'est une épreuve unique, je trouve. Sincèrement, il faut la vivre pour. Je pense qu'il faut la vivre pour comprendre. En fait, t'as tout qui se chamboule, quoi. Entre l'ambiance, la difficulté, les émotions, et quand tu arrives et que tu franchis la ligne, tu relâches tout, quoi. Et en même temps, t'as le shoot de dopamine, t'as les émotions, il y a tout, et ça te fait un cocktail d'émotions comme ça, je trouve, dans ton corps, dans ta tête. Et il faut le vivre, quoi. Tu peux pas dire à quelqu'un ce que ça fait sans qu'il faut le vivre. En tout cas, c'est ce que je pense.
Eh bien écoute, en tout cas, tu l'as vécu. Donc je te félicite encore, hein, champion,
Ouais,
champion du monde
merci.
de ton monde, parce que
Oui.
tu l'as. Et ceux qui regarderont ton compte pourront voir les différentes étapes, pourront voir, parce que c'est vrai que tu l'as dit, hein, le coup de mou, tu as fait des photos dessus, tu as mis des photos rigolotes, tu as un réel aussi où tu te moques je sais pas, de ceux qui veulent avoir des comptes ronds avec leur montre.
Ah oui, bah oui. Alors ça, c'est. Alors toi, on en reparlait tout à l'heure, mais ça, c'est pareil que d'accélérer quand tu croises quelqu'un. Je me suis rendu compte que si tu arrives à 9,98, 9,99, et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, je me sentais obligé de terminer le travail et que ça fasse un compte tout rond, quoi. Je me sentais mieux, en tout cas.
Ouais, je crois qu'il y a deux teams là-dessus. Il y a la team compte rond et la team compte. Je m'en fous. Moi, ce qui me faisait le plus courir, c'est pas le compte rond, c'est le finir mon chapitre de livre audio. ce truc-là, j'ai oh punaise, il faut que je finisse mon chapitre. Allez, hop, je vais faire 3-4 minutes de plus pour arriver à finir mon chapitre. Je mesure un peu, ou tu vois, finir quand j'écoute un podcast ou des fois une chanson,
Ouais.
tu vois, des trucs comme ça.
Oui, parce que moi, ça s'arrête des fois quelques minutes avant. Moi, je t'avoue que ça, je suis pas de cette team-là, non.
Ouais, bah voilà, comme quoi on a chacun notre team. Bah écoute, aujourd'hui on a fait une team sortie longue d'1h15 à peu près, tu vois, comme quoi les gens ont une belle sortie longue un hein, dimanche pour ce qu'ils préparent. Je l'ai dit, je mettrai le lien vers ton compte Instagram dans les notes de l'épisode. T'es ailleurs que sur Instagram ou j'ai raté des trucs ou t'es que sur Instagram?
Non, je suis que sur Instagram. Après, je ne suis pas le plus actif, mais je partage quand même de temps en temps des informations et des petites photos de mes courses, de comment je me sens, etc., quoi.
Ouais, tu nages aussi, non? Il me semble avoir vu ça.
Alors, oui, j'essaye de nager, j'essaie d'aller une fois par semaine à la piscine, ouais. Ouais, de temps en temps.
Je t'ai pas vu rouler, donc je te demande pas si tu vas faire du triathlon.
Alors, pas de triathlon, mais par contre, j'ai très envie d'essayer le trail.
Ouais, bah écoute.
Ouais. Donc ça, c'est prévu aussi.
Ouais, ta semaine à la montagne t'a donné des idées peut-être.
Exactement.
Bah écoute, et c'est tout ce que je te souhaite, et puis tu verras, c'est une ambiance totalement différente. On n'a pas la même relation non plus au kilomètre. Et puis, votre petite vidéo, là, façon Ligue des Champions, là, était bien rigolote aussi, j'ai trouvé. Tu diras ça à tes camarades d'entraînement. C'était bien
Ah,
trouvé,
ouais.
c'est bien trouvé votre histoire, franchement.
Ça, c'est tous les guerriers qui ont fait le marathon.
Ouais.
Voilà. Que des finishers, il n'y a eu aucun abandon, donc on était vraiment fiers.
Ouais, c'est chouette. En tout cas, je te félicite. Déjà aussi, et je te remercie pour ce message aussi, pour voir un peu comment on prépare ce genre de course. Toi, tu prépares, tu as la mucoviscidose, mais tout le monde a ses, comment dire, ses difficultés, ses facilités, ses choses comme ça et tout. Mais je trouve que c'est aussi un beau message aussi de montrer que, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi j'ai marché, mes parents faisaient marcher pour la mucoviscidose, on voit plein d'associations. Des fois on se demande ce qui se passe derrière, les impacts, etc. Et de voir que ça te redonne cette capacité physique de pouvoir faire ça aussi, je pense que c'est aussi important. Et c'est vrai que c'est des beaux exemples. Et puis j'imagine aussi les parents, on en avait parlé déjà aussi avec Paul là-dessus. Quand ils voient ça, se dire bah tiens, il y a de l'espoir hein, pour mes enfants, pour ce qu'ils seront capables de faire un jour. Et c'est chouette, en tout cas, de voir que les progrès de la médecine te permettent à toi et permettent à d'autres de faire. Peut-être que c'était même pas un rêve en fait, parce que finalement le sport pour toi c'était un truc étranger peut-être pendant très longtemps.
Ouais, c'est ça. Ce que je voulais dire surtout à ces gens-là, c'est que moi j'ai 29 ans, voilà, j'ai déjà avancé dans la vie, mais tous les parents qui vont avoir des enfants en bas âge, bah, c'est un message d'espoir de fou, quoi. Ces gens-là, je veux pas leur dire de pas s'inquiéter, parce que quand t'es parent, t'es toujours inquiet, mais en tout cas, il y a énormément d'espoir pour la suite. Et c'est grâce au Virage de l'Espoir, notamment, à tous les dons. Non, ça ne sert pas à rien. Il y a une réelle utilité. Je sais qu'on ne le voit pas tout le temps comme tu le décris, mais la recherche avance et il y a besoin de financer ça. Voilà, ce nouveau médicament qui fait des miracles, ça en fait partie de toute cette recherche. Donc voilà, c'est important.
Voilà, et que ce soit cette maladie et toutes les autres maladies sur
Et toutes
lesquelles
les autres, bien sûr, oui,
il y a
non,
des
on est tous dans le
recherches,
même bateau. Oui,
parce qu'on
oui.
a parlé de plein de maladies, puis moi j'ai une collègue qui avait un fils qui était très handicapé et qui vit beaucoup plus longtemps que prévu finalement, hein, aussi grâce à des choses comme le Téléthon et tout.
Oui,
Donc
évidemment.
voilà, il y a plein de choses. C'est important, je trouve aussi de le dire, parce que il y a plein de gens aussi qui veulent courir pour des causes. Pour des courses, qui portent des maillots, on a parlé de la sclérose en plaques, on a parlé de plein de maladies finalement, je me rends compte, cancer et tout. Mais c'est bien aussi de dire bah, qu'est-ce qui se passe aussi pour ceux qui peuvent en bénéficier. Et en tout cas, c'est un beau message aussi de voir que tu arrives à j'allais dire, te remplumer, parce que vraiment, quand je vois les images, c'est vraiment ça. Retrouver aussi cette capacité à faire du sport, à imaginer aussi un avenir sportif. Donc, bah, on va suivre les aventures maintenant, hein, quels seront
Bah oui, avec plaisir.
les prochains défis, si c'est d'autres courses, quelles que soient les distances. De toute façon, toutes les distances sont belles. Moi, je dis que toutes les distances sont belles. Vous n'êtes pas obligé de faire du long, vous n'êtes pas obligé de faire du très long, vous n'êtes pas obligé de faire du trail, mais en tout cas, vous pouvez aller vous amuser sur les différentes distances sur lesquelles vous avez envie de vous amuser et de devenir champion et championne du monde de votre monde. Et en tout cas, Elliot, je te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir témoigné, d'avoir montrer aussi ta préparation, alors partager tout ça. Je mets les liens dans les notes de l'épisode. Et puis, écoutez, nous, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Je me demande si en ce moment, je suis pas abonné un petit peu aux invités bretons, hein, quand même, parce que c'est beaucoup,
Les
beaucoup de
meilleurs.
bretons. Ouais, bah écoute, peut-être, je sais pas. C'est un mystère. C'est comme ça. En tout cas, je ne vous dis pas qui est le prochain invité. C'est dans ma petite liste. Hein, parce que au salon du running, la caractéristique, c'est que j'ai croisé beaucoup de gens. Mais vraiment beaucoup de gens. Dont certains. Qui ont des parcours, plein de parcours différents par rapport au sport et tout. Et donc, vous allez voir, ça fait beaucoup, beaucoup d'invités différents. Et on va parler de plein de sujets différents. En tout cas, Elliot, merci beaucoup.
Merci à toi, Bertrand.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.